There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour, vous écoutez Tout s'explique, où on parle de sexualité, de santé et de société. Peut-on revoir son foyer, où l'on habite en couple depuis parfois 1 ou 30 ans, comme un lieu propice à l'érotisme ? Parce que ce logement, qui fut peut-être un territoire des plaisirs, est devenu peut-être, là encore, un espace compartimenté, asexué, avec l'espace des enfants, l'espace du bazar, la présence éventuelle des aînés, la proximité des voisins, et puis cette chambre matrimoniale, un espace dédié au sommeil, mais qui fut peut-être, avant, un espace du plaisir, de l'imagination, de l'intimité. Et quand on parle d'intimité, de sexualité, vous le savez bien, on parle du cerveau. Alors comment changer de perception, d'érotiser à nouveau ce foyer ? C'est la question posée à Capucine Moreau, l'invitée de notre rendez-vous Tout s'explique. Elle est sexologue, créatrice de l'école de Capucine, et elle a publié « La créativité érotique dans le couple » et « Le cahier d'exploration érotique » aux éditions La Musardine. Avant de commencer cet entretien, rappelons qu'il n'y a pas de vérité définitive, de normalité dans le couple. Parce que ce couple, il peut prendre des formes très différentes, des engagements hétérogènes, basés sur des histoires variées. On interroge donc ici un couple qui soit hétéro, homo, bi, trans, et qui verrait sa créativité érotique s'éteindre petit à petit dans son foyer. Capucine Moreau, bonjour. Est-ce que tout d'abord, cette perte de érotisation dans son foyer, c'est commun ?
Quand un nouveau couple cohabite, se met à cohabiter, en général, l'érotisation du couple, de la relation, a tendance à diminuer. Pas le sentiment amoureux, on décide de vivre ensemble, de créer un projet, etc. Mais puisqu'avant, on se voyait dans des moments choisis, on se donnait rendez-vous, on se préparait pour se voir, etc. Et en général, il pouvait y avoir, pourquoi pas, de la sexualité. Là, quand on se met à cohabiter, on se voit tout le temps, on se voit quand on n'a pas spécialement envie, quand on est fatigué, quand on est malade. Et puis, on a aussi toutes nos représentations de ce que doit être un couple, la famille, etc., qui s'invitent dans le logement. Donc, de fait, il y a assez rapidement quelque chose qui change. Mais effectivement, on peut se dire comment faire en sorte de préserver quelque chose. Et c'est pas mal d'en avoir conscience dès le début, en fait. Parce que souvent, quand on est ensemble depuis un petit moment et que les choses vont un peu moins bien, ça peut être plus difficile de se le dire à ce moment-là.
Quelle réaction face à ce foyer qu'on habite, qui a vu ces espaces devenir totalement asexués ?
Sachant que les débuts, d'ailleurs, il peut y avoir des flammes très intenses au début ou moins. Plein de couples se fondent d'ailleurs de différentes façons. Après, il y a plusieurs façons d'envisager les choses. Alors, c'est vrai que j'aime bien, alors sans parler de normes, mais témoigner aussi de la réalité des choses, parce qu'on est dans une société quand même avec une forte injonction à la sexualité. Et donc, les couples qui ont une baisse de désir, une baisse de sexualité, ont tendance à culpabiliser, à ne pas en parler, à faire du conflit par-dessus cette réalité. Et en général, bon, la culpabilité, la pression, c'est pas super bon pour le désir. Donc, j'aime bien rappeler que ce sont des situations communément vécues. Alors après, il y a plusieurs possibilités. Certains couples l'acceptent assez bien et en fait vont surtout, si je puis dire, capitaliser sur des périodes un peu extraordinaires, c'est-à-dire la période des vacances, quand on a la chance de partir en vacances et de partir dans un autre lieu, le fait d'être ailleurs, de ne pas avoir les contraintes habituelles, de ne pas avoir le travail, etc. Ça va raviver souvent un peu la créativité, l'espace pour l'autre et l'envie de l'autre. Une deuxième possibilité, c'est d'oser le penser. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, on a un mythe assez fort dans le couple aujourd'hui, c'est la sexualité devrait être spontanée. Donc, ça devrait être spontané. Donc, en gros, il ne faut pas le discuter, il ne faut pas le travailler, il ne faut pas œuvrer pour la sexualité, sinon ça veut dire que ce n'est pas naturel, etc. C'est des a priori qu'on a beaucoup. Alors, la première chose souvent que je dis quand il y a des enfants, des petits-enfants, enfin des grands-enfants aussi, c'est de sécuriser le lieu, qui est en général quand même souvent la chambre, quand on a envie d'avoir quelques ébats, et notamment en mettant un petit verrou simple, parce que c'est quand même compliqué d'être tranquille quand on sait qu'on est potentiellement interrompu. De s'autoriser aussi à avoir des sortes d'horaires spéciaux, c'est-à-dire réfléchir aussi à quand est-ce qu'on peut se retrouver pour avoir des moments intimes. Parce que très souvent, on compte sur le soir, après le repas, le lave-vaisselle, avoir couché les enfants. On se retrouve, c'est déjà 22h, 22h30, on a le boulot le lendemain, donc c'est en général quand même pas un super moment. Donc regardez est-ce qu'on pourrait pas se faire de temps en temps un 5 à 7 aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des RTT, des horaires décalés. Et pourquoi pas se donner rendez-vous et investir son logement quand il n'y a personne. Ce que je propose aussi, c'est d'aménager un espace, la chambre, où souvent on dort dedans. Est-ce que quand on a envie d'un moment intime, on peut le faire un éclairage différent, essayer de ne pas avoir les linges qui pendent de partout, essayer d'avoir aussi un espace préservé de tout ça. Et parfois, il suffit d'un petit truc, le petit éclairage spécial, coquin, entre guillemets, qui nous met dans une ambiance un peu particulière. Et justement, regardez comment les contraintes, parce qu'on a tous et toutes des contraintes, évidemment, à la fois logistiques, de bruit, d'espace, comment les contraintes peuvent aussi devenir un jeu.
Dans un logement, il y a souvent, pas toujours, mais souvent, des voisins à côté. Et si on peut les entendre, ça veut dire qu'eux aussi peuvent nous entendre. Alors, comment faire pour ne pas se faire entendre des voisins si on a envie d'avoir des rapports pacifiés avec le voisinage ?
Choisir des moments un peu différents. Je répète que souvent, quand même, les couples arrivent à s'aménager pour des tas de trucs. Pour les amis, pour les enfants, pour les courses. Et puis souvent, s'aménager du temps de couple et du temps intime passe en queue de liste. Donc peut-être se le remettre un petit peu en début de liste aussi.
Capucine, vous parlez de rites, de choses à organiser, donc d'une organisation pensée. Eh bien, on parle de charge mentale. Et la charge mentale dans les couples hétéros, ça revient souvent aux femmes.
C'est tout à fait vrai. C'est que malheureusement, encore aujourd'hui, d'entretenir l'intimité du couple, ça revient, et de chercher des solutions, ça revient souvent aux femmes. Ceci dit, on peut se dire aussi à l'inverse que se trouver des petits rituels, des petits rendez-vous qui ne sont pas forcément des rendez-vous sexuels dans le sens il faut absolument qu'on fasse du génital, du coït, etc. Ça peut permettre aussi, c'est-à-dire voilà, un rendez-vous où on se retrouve corporellement, ça peut permettre aussi de se dire que les autres jours, on ne se pose pas sans arrêt la question de est-ce que l'autre attend quelque chose, est-ce que j'ai envie de sexe, est-ce que l'autre a envie de sexe et comment on fait, etc. Quand je rencontre des couples hétéros classiques, j'allais dire, très souvent, c'est plus, je caricature, hein, mais c'est quand même très souvent ça, le partenaire masculin va se plaindre d'un manque de sexualité, mais c'est la partenaire féminine qui cherche des solutions. Et c'est important de savoir aussi un peu ce qui excite sa partenaire, ce qui peut lui donner du plaisir, ce qui peut la mettre dans des bonnes conditions, plutôt que se dire que ça va arriver en claquant des doigts, quoi.
D'ailleurs, on rappelle que la sexualité ne se réduit pas aux relations de pénétration. L'univers de l'intimité, de la sexualité partagée, librement consentie, elle est bien plus riche que cela. On en a déjà parlé en podcast avec Camille Tallet, sage-femme et ostéopathe, et aussi France Ortelli, autrice.
Merci de relancer là-dessus, parce que justement, ça, c'est aussi quelque chose qui est important et qui freine énormément la sexualité des couples cohabitants. On peut avoir peur de commencer quelque chose, et c'est là où on perd aussi l'érotisation dans l'espace commun. C'est-à-dire, au bout d'un moment, je peux avoir peur d'aller rouler une grosse pelle à mon partenaire dans la cuisine, ou de passer une main sur une fesse, ou de faire un gros câlin un petit peu sensuel, parce que ça peut être signe d'une ouverture qui veut dire, mécanique oblige, il va falloir qu'il y ait un rapport sexuel jusqu'au bout. Jusqu'au bout, restant encore aujourd'hui beaucoup, la pénétration et la jouissance principalement masculine. Et du coup, on finit par se tenir à une juste distance dans toutes les pièces de l'appartement pour pas signifier quelque chose qui voudrait aller plus loin. Et ça, c'est du coup un conseil que je donne beaucoup aux couples, c'est essayer de vous réautoriser tous ces espaces intermédiaires corporels un bisou dans le cou, une étreinte un peu sensuelle, un câlin nu, une petite douche, en vous disant que ça ne signe pas l'entrée en mécanique de toute la chorégraphie érotique, vous voyez ? Pour garder aussi cette érotisation qui n'a pas toujours besoin de se matérialiser.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.